100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est le projet des superlatifs, le plus grand projet de développement actuel en Europe, la plus emblématique des privatisations grecques, 12 ans après le début de la crise qui a mis à genoux l'économie du pays, Ellinikon, un chantier pharaonique de réaménagement de l'ensemble du site de l'ancien aéroport d'Athènes, 620 hectares, trois fois la taille de Monaco. Les premiers coups de pioche ont été donnés cet été au terme de travaux prévus sur une période totale de 25 ans et d'un investissement d'au moins 8 milliards d'euros. Cet espace côtier devrait notamment accueillir un gigantesque complexe orienté vers le tourisme de luxe ainsi qu'un vaste espace vert public de 200 hectares. Ce projet ambitieux suscite ainsi un certain nombre d'attentes auprès des habitants de la capitale grecque, même si ses détracteurs dénoncent, eux, des soupçons de corruption autour de la mise en vente du site à l'époque de la crise financière qui a frappé le pays. À Athènes, le reportage de Joël Brunner.
Comme en témoigne un panneau orné d'une chouette, vestige d'une époque avant l'euro, où les prix étaient encore indiqués en drachmes, plus aucun avion n'a décollé ici depuis 2001. Vitres brisées, façades taguées, terminaux vides et abandonnés, s'égit la carcasse d'Ellinikon, l'ancien aéroport d'Athènes, à quelques 10 km au sud de la capitale. Professeur d'alto, Eleni Liora habite ce quartier d'Helléniko, qui a légué son nom au site. L'enseignante est impatiente de voir se matérialiser le vaste espace vert prévu au cœur de son réaménagement.
C'est mon quartier, oui. Je m'attends à un énorme parc très vert avec accès à la mer qui va créer des emplois. Parce qu'Athènes a besoin de verdure. Il n'y a pas assez de parcs. Et ça, c'est vraiment une grosse attente pour moi. Et je pense pas que pour moi, pour beaucoup d'habitants, d'avoir des espaces verts pour pouvoir se promener, pour pouvoir faire du vélo. Et aussi, j'espère qu'il y aura une partie de la plage qui sera libre. J'espère que ça ne sera pas tout privatisé.
Les travaux de démolition des bâtiments à l'abandon, qui devraient durer au moins 6 mois, ont démarré début juillet. Le jour où les grues se sont mises au travail devant les caméras, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, paré d'un gilet de chantier, n'a pas hésité à faire preuve d'un certain lyrisme face à l'ampleur et l'ambition de ce projet de développement.
Aujourd'hui est un jour important et symbolique. En détruisant les bâtiments désaffectés du vieil aéroport d'Athènes, nous construisons les fondations d'une nouvelle Ellinikon, qui est peut-être le plus grand projet immobilier du bassin méditerranéen. Dans cet espace qui a été abandonné pendant 19 ans, nous allons notamment créer le plus grand parc côtier de la Méditerranée. Il s'agit là d'un projet moderne, contemporain et respectueux de la nature, cette œuvre sera le symbole d'une nouvelle Grèce.
Des hôtels, des résidences de luxe, des gratte-ciels de bureaux, ainsi qu'un casino et une marina destinée à l'accueil des yachts se retrouvent ainsi au programme des infrastructures supposées incarner cette nouvelle ère. En ligne, le clip promotionnel du projet vante ainsi les charmes mélodieux d'un futur joyau urbain. Mais pour l'ingénieur Yorgos Anamateros, la musique n'est pourtant pas tout à fait la même.
Put a bomb in the home of mischievous journalist. Yorgos Anamateros, je suis ingénieur civil, inclus dans la liste des experts des tribunaux d'Athènes et de Pirée. Et j'ai travaillé depuis 2006 dans plusieurs secteurs d'ingénierie civile. Je fais aussi beaucoup d'investigations. Voilà.
Fin 2014, l'ingénieur, qui est aussi un amateur de jazz à rien excentrique, se retrouve ainsi chargé d'enquêter par un procureur financier sur les conditions de la vente du site de l'ex-aéroport d'Ellinikon. Une vente opérée au cœur de la crise financière, sous la houlette du Fonds de développement des actifs de la République hellénique et dans le cadre d'un large plan de privatisation encouragé par l'Union européenne et le FMI. Comme 3 autres expertises, le rapport de Yorgos Anamateros conclut notamment que le site a été cédé très nettement en dessous de sa valeur, au détriment de l'État grec et au bénéfice de l'investisseur sélectionné, à savoir la société Lambda Development, propriété du milliardaire grec Spiros Latsis. 2,5 fois moins cher que son prix selon l'ingénieur, 3 à 4 fois moins selon d'autres experts. La vente finira malgré tout par être validée, mais ce francophone diplômé de l'université de Liège, conscient d'être une des personnes les plus au fait des détails du dossier, continue à batailler pour mettre en lumière un système dont il dénonce l'opacité. À commencer par les conditions de sélection qui ont suivi l'appel d'offres.
Toute cette procédure a été secrète. Donc c'est une compétition qui, vous savez, il y avait l'essence de scandale. Pour venir à mon domaine, pour parler de ce qui me concerne, je peux vous dire que l'évaluation a été faite d'une manière pour minimaliser la valeur finale. Tout a été fait pour que l'investisseur soit content.
À présent, l'ingénieur qui se considère comme un lanceur d'alerte cherche à faire éditer un livre tout entier consacré au-dessous de la vente de ce site. Et ce, alors que les grues terminent de faire disparaître la carcasse de l'ancien aéroport d'Athènes. En attendant la floraison ici même d'un immense parc immobilier et la future progression des prix du mètre carré dans tout le quartier des Lignico.
Faute de travaux de rénovation, plusieurs ponts et quais d'Amsterdam sont menacés. Certains ont été construits au XVIIe siècle et d'après les services d'urbanisme de la ville néerlandaise, une partie ne présente plus un niveau de sécurité suffisant pour les usagers. 1200 ouvrages enjambent les canaux sous la gestion de la municipalité et plusieurs pourraient s'écrouler. 200 km de rue longent les canaux. Au début du mois, c'est un quai du centre-ville qui s'est effondré. Il n'y a pas eu de blessés, mais l'incident a tout de même rouvert ce débat sur l'entretien et l'état des quais et ponts le long des petits canaux de la ville. Antoine Moutot.
Les images relayées par la télévision publique sont impressionnantes. Capturées par des caméras de surveillance, on y voit les derniers moments d'un petit quai du centre-ville, comme il en existe beaucoup à Amsterdam. En un instant, un pan entier se détache avant de s'effondrer quelques secondes plus tard dans le canal Grimbervaal. Par chance, personne ne se trouvait sur le quai au moment de l'accident. En face, sur l'autre rive, les passants s'arrêtent abasourdis. Les dégâts sont immenses. Sans ce quai pour le protéger, le bâtiment BG2 de l'Université d'Amsterdam ne se trouve plus qu'à quelques centimètres de l'eau du canal. En réaction, les autorités font évacuer les bureaux et salles de classe par précaution et jusqu'à nouvel ordre, cette partie de la faculté d'art et des sciences humaines restera fermée. Rapidement, les images de l'effondrement font le tour du pays et ouvrent un débat sur la situation des quais et ponts de la capitale. Le journal d'Amsterdam, Het Parool, rappelle que d'autres effondrements de quais ont eu lieu en 2018 et 2017. Sur 200 km de quais en briques, 10 sont dans un état déplorable. Et plusieurs ponts ont besoin d'urgence d'une rénovation, écrit Het Parool. En fait, 15 jours avant l'accident, ce même journal mettait en garde les Amstelodamois. En raison de la crise du Covid-19, les fonds de restauration des quais et 1797 ponts de la commune sont en danger. La mairie va sûrement devoir se serrer la ceinture, estime Het Parool, et à chaque période de coupe budgétaire, c'est l'entretien des ponts et quais qui trinque. L'accident de Grimbervaal a en tout cas provoqué une dispute politique entre d'un côté le gouvernement local de la maire écologiste Femke Halsema et de l'autre notamment les nationalistes de Forum pour la démocratie. Ils reprochent à la ville d'avoir cru que le simple fait d'empêcher les voitures d'accéder à de nombreux quais d'Amsterdam pouvait la dispenser d'effectuer d'importants travaux de rénovation.
L'Union européenne réclame la libération immédiate des opposants emprisonnés en Biélorussie alors que le pouvoir accentue la répression. Sont visés ceux qui manifestent contre le régime depuis la réélection contestée du président Loukachenko en août dernier. Une figure de l'opposition, Maria Kolesnikova, aurait été interpellée ce mardi matin à la frontière ukrainienne dans des conditions encore troubles. L'affaire rappelle un peu le départ précipité de Svetlana Tikhanovskaya. Cette femme, qui incarne aujourd'hui le mouvement de contestation biélorusse, était encore il y a peu très éloignée de la politique. Contrainte de se réfugier en Lituanie, Svetlana Tikhanovskaya revendique aujourd'hui la victoire et tente de mobiliser l'opposition. Son portrait par Anastasia Becchio.
Comment présenter Svetlana Tikhanovskaya, ancienne candidate à la présidentielle, présidente élue, chef de l'opposition biélorusse? Voici sa réponse à la télévision russe Dosht.
Écoutez, on n'a plus d'opposition en Biélorussie, on a une majorité. C'est pourquoi, vous pouvez m'appeler leader national si ça vous va.
Svetlana Tikhanovskaya est avant tout l'incarnation d'un combat, un symbole, estime pour sa part Olga Gilbelova, maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
C'est une personnalité qui symbolise aujourd'hui ce désir de changement. Donc c'est une forme d'égérie de cette contestation et de cette opposition.
Il y a aussi, je pense, l'effet de contraste qui a beaucoup joué entre le président Loukachenko, qui est une forme d'archétype d'un dictateur, d'un homme politique autoritaire avec un discours très incohérent et à la fois très agressif, très menaçant. Et puis, de l'autre côté, on a l'archétype de cette femme, beaucoup plus ouverte, plus moderne, plus empathique et qui a un discours beaucoup plus doux et qui représente justement davantage, je pense, aujourd'hui la société biélorusse.
La jeune femme s'est retrouvée par accident sous les feux des projecteurs. Son époux, le blogueur populaire Sergueï Tikhanovski, ayant été empêché de se présenter à la présidentielle et jeté en prison, cette traductrice d'anglais et d'allemand, qui s'est surtout consacrée à l'éducation de ses deux enfants ces dernières années, a repris le flambeau.
Je ne suis pas une femme politique et je n'ai pas besoin du pouvoir. Mais mon mari est derrière les barreaux. J'ai été contrainte de mettre mes enfants à l'abri pour leur sécurité. J'ai sacrifié ma vie tranquille pour nous tous.
Dans les semaines et les jours qui précèdent le scrutin du 9 août, Svetlana Tikhanovskaya parcourt le pays. Ses rassemblements publics font le plein et elle gagne peu à peu en aisance. Olga Gilbelova.
Les discours ont été écrits probablement par les équipes, mais il arrive à se les approprier et à exprimer, à mon avis, ce que ressentent la majorité de la population biélorusse. C'est pratiquement sous nos yeux qu'elle s'est transformée en femme politique. C'est une évolution très rapide, mais ça montre aussi que c'est une femme assez intelligente, assez courageuse.
Au lendemain de la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaya est contrainte de se réfugier en Lituanie. De Vilnius, elle mène des consultations avec de hauts responsables occidentaux et s'exprime par visioconférence devant plusieurs instances internationales, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Katsarina Shmatsina, de l'Institut biélorusse des études stratégiques.
Affirmer aujourd'hui que Svetlana Tikhanovskaya a un poids politique important, c'est un peu prématuré, mais on peut constater que malgré tout, elle parvient à mener des discussions avec des responsables étrangers.
Les manifestants veulent obtenir le départ du président et de nouvelles élections. Svetlana Tikhanovskaya a d'ores et déjà annoncé qu'elle n'y participerait pas.
En Irlande, Galway devait être cette année capitale européenne de la culture, mais pour cause de Covid-19, elle devrait être moins européenne que prévu. Galway s'attendait à une saison exceptionnelle, alors pour éviter le désastre, Emeline Vin, la ville a réinventé son programme.
Galway 2020 version Covid, c'est un programme réduit. Seulement 28 projets sont retenus, ceux qui faisaient partie de la candidature originelle en 2014 sur plusieurs centaines annoncées au début de cette année. Évidemment, tous ont dû être réadaptés pour tenir compte des restrictions sanitaires. Par exemple, la pièce de théâtre Gilgamesh a été découpée. Elle se tiendra sous forme de scénette un peu partout dans la ville, en extérieur. L'exposition au Galway Museum reste gratuite, mais il faut désormais réserver. Pour Marilyn Gauguin-Redan, la programmatrice de Galway 2020, il était essentiel que le spectacle continue, que le show go on. Le statut de capitale de la culture est d'ailleurs prolongé jusqu'en 2021.
Mais forcément, Emeline, avec moins de touristes internationaux, cette saison va être beaucoup moins bonne qu'espérée, non ?
Évidemment, c'est un coup dur. Galway est toujours un succès touristique, même sans statut de capitale de la culture. Les commerces s'attendaient à des ventes exceptionnelles. Par exemple, ce bijoutier qui a dessiné une collection spéciale pour Galway 2020. C'est d'autant plus décevant que la ville se prépare depuis 6 ans. Mais il y a eu des investissements conséquents en amont, 18 millions d'euros, des théâtres, des œuvres urbaines, un élan culturel. Tout ça va rester même l'année prochaine. Parmi ces investissements, il y a aussi les campagnes publicitaires. D'ailleurs, les effets de la capitale européenne se font sentir dans les années qui suivent, pas forcément l'année même. Et puis, tous les acteurs espèrent pouvoir bénéficier d'un rebond, justement parce que la capitale de la culture n'a pas eu lieu comme prévu, et capitaliser sur l'empathie des touristes potentiels, pour reprendre l'expression d'une guide touristique galwégienne.
Merci, Emeline Vin. À bientôt. Covid. Covid, c'est l'occasion pour certains d'envisager un changement de vie, peut-être en suivant l'exemple de Ludovic en Belgique. C'est un reportage de notre consoeur de la RTBF, Alice de Bâtisse.
C'est à 15 km de Charleroi, à Boufiou, que Ludovic vient d'ouvrir son magasin.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, bonjour.
Merci.
Bonjour. Entrez, entrez.
Cet électromécanicien de formation a opéré un changement à 180 degrés. Il a délaissé ses outils pour les rayons d'une boutique de vêtements et d'accessoires de moto.
Donc on est basé sur la custom culture. Donc c'est l'envie de customiser. Ça peut très bien être se customiser soi-même. Donc, on s'habille, ouais. Voilà, on s'habille avec un bien un style particulier. On peut très bien trouver des chemises à carreaux pour rouler en moto. On peut y trouver des t-shirts, on peut y trouver des vestes en cuir.
Avant de vendre des gilets en cuir de motard, Ludovic a travaillé pendant 18 ans pour le constructeur d'engins et de matériel de chantier américain Caterpillar. En 2016, c'est le choc. L'usine décide de cesser ses activités.
Donc là, sur mon transat en vacances, mon téléphone sonne et j'apprends que l'usine ferme. Donc j'ai mon papa qui m'appelle et qui me dit voilà, le conseil d'entreprise extraordinaire vient de se terminer, ils annoncent la fermeture de l'entreprise.
2200 personnes perdent leur emploi, les licenciements sont organisés par vagues successives. En 2017, c'est le tour de Ludovic.
Je me lève le matin, je suis perdu, je ne sais pas où aller. Et heureusement, il y a cette cellule de reconversion qui fait qu'on n'est pas entièrement déconnecté. Donc je me souviens de mon premier jour de la cellule où je retrouve mes collègues après quelques jours. Et à ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire ?
Les anciens employés de Caterpillar sont alors guidés par des membres du Forum et des délégués syndicaux de la FGTB et de la CSC. Les cellules de reconversion sont financées par des allocations de la Wallonie, mais sont aussi financées par le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Il est destiné à aider les États membres lorsqu'ils sont confrontés à de grandes restructurations imprévues dues à des problèmes liés à la mondialisation. 4,6 millions d'euros sont débloqués pour la fermeture de Caterpillar, de quoi financer des formations qualifiantes et un soutien pour la création d'entreprises.
Donc j'ai une grosse pensée pour elle, Laurence Moucheron, qui s'est occupée de mon profil. Je lui dis voilà, je sais ce que je veux faire. Donc elle s'est demandé un peu ce qui se passait. Je lui dis voilà, je sais ce que je veux faire. Je veux ouvrir une boutique de vêtements d'accessoires de moto.
Ludovic commence par une formation en gestion, établit un business plan et décroche un an et demi plus tard une aide européenne de 15 000 euros pour créer son entreprise. Un coup de pouce qui l'a aidé à se lancer.
On est sur un projet à 200 000 euros, hein, bâtiment compris. Donc tout de suite ça fait peur. Mais c'est certain que ce coup de pouce-là, c'est une aide financière. Il n'y a pas de secret, c'est 15 000 euros. Donc quand vous savez que vous démarrez avec une aide pareille, j'ai beaucoup d'indépendants autour de moi qui m'ont dit « Moi, je me suis endetté pour démarrer. Si j'avais eu ce pouce-là, je ne me serais pas posé de questions. »
Et si Ludovic travaille aujourd'hui entouré de guitares, de vinyles des années 70 et d'accessoires de moto, son passé à l'usine n'est pas loin. Il est en fait accroché juste au-dessus de son bureau.
Ça, c'est ma dernière salopette qui est encadrée. Donc, il faut savoir, après 18 ans de vie dans une entreprise, on ne quitte pas ça comme ça. Ça fera partie de mon ADN. Et j'ai eu à cœur de l'encadrer parce que voilà, je dirais que la marque en elle-même de cette entreprise ne me manque pas, mais ma vie sociale et ma famille de l'usine, malgré tout, voilà, du jour au lendemain, on ne se voit plus trop. Et c'est un point d'honneur que j'ai justement à dire que je viens de là.
Autre relique d'une époque passée, l'heure d'ouverture du magasin. Tous les jours, Ludovic ouvre à 9h42 précise. Les heures des shifts à l'usine, 6h42, 14h42, 22h42. Un rythme entêtant qui a marqué tous les travailleurs de Caterpillar. Les cellules de reconversion en ont accompagné 1592. Parmi eux, 1000 ont depuis trouvé un emploi.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt.